mon pépère.
Allez, une question plateau.
Oh là 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 là, quelle image.
La joie du pistolero à l'arrivée.
Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse-Patate, épisode qui sera consacré aux Ardennaises et un petit peu autour des Alpes. On y reviendra sur la fin, mais là quand même le gros menu qu'on a pour aujourd'hui, ce sont les Ardennaises, l'Amstel, la Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Donc. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Yann. Bonsoir, bonjour.
Salut, salut.
Monsieur Arwen déjà, le bon breton. Alors là, niveau prénom, on peut pas faire plus breton que ça.
Ben bonsoir à tous.
Également Alex, notre habitué.
Bonsoir.
Du coup, alors au programme du jour, les Ardennaises, comme je l'ai dit, et voilà, juste avant de commencer l'enregistrement, on s'est posé la question, comment on fait ça? Comment on aborde ça? Est-ce qu'on fait quelque chose de très général où on aborde toutes les classiques en même temps? Est-ce qu'on fait course par course? Et du coup, on n'a pas pris de décision, et du coup, c'est l'improvisation totale, comme d'habitude. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, ça va être un truc très général, c'est le truc que je vous pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de ces courses en termes de spectacle? Est-ce que vous avez vibré devant ces Ardennaises? Les Ardennaises qui sont quand même les classiques, qui bien souvent se font charrier pour justement leur manque de spectacle et le fait qu'elles se jouent bien souvent sur les derniers kilomètres. Hein. Est-ce que cette année, c'est un petit peu dérogé à la règle? J'ai envie de dire que on a eu des Flandriennes qui étaient un petit peu moins impressionnante que l'année dernière, mais on a eu des Ardennaises qui se sont un petit peu défendues. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, Yann, je te laisse commencer.
Ouais, alors de là à dire que ça a été le spectacle,
oui.
Peut-être pas. Enfin, on va pas non plus s'emballer. Mais non, mais ça a été vachement plus plaisant que l'année dernière. En tout cas, entre l'Amstel, il y a eu du mouvement, ça a été chouette. La Flèche Wallonne, c'était pas le maxi spectacle, mais d'un côté on s'y attend jamais sur cette course. Il y a quand même eu deux trois petits mouvements sympas. Et puis aujourd'hui Liège, c'était plutôt sympa et ça a changé un peu de ces 4-5 dernières années.
Ouais, plus impressionnant, c'est quand même la Flèche hein, qui depuis environ je sais pas combien d'années se termine par un sprint de 400 mètres. Et là il y a eu des attaques incroyables. Hein. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais bon. Ouais, effectivement, des Ardennaises qui sont bien... On avait été très très mauvaise langue hein, sur les podcasts précédents quand on les présentait en disant qu'on allait bien se faire chier. Ben, finalement, voilà, c'était pas de la folie, mais c'était pas trop mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alex, je te laisse enchaîner.
Ouais, alors la campagne d'Ardennaises, au final, on a eu un peu plus de spectacle, peut-être un peu moins sur l'Amstel, où on pouvait s'attendre à mieux, où en fait on a eu une course totalement débinée et au final ça s'est complètement calmé dans les 10 derniers kilomètres, où au final c'est une attaque décidée de tout, et au final ça a rendu la course un peu moins passionnante. Sur la Flèche, on a eu droit à quelques attaques en plus, qui étaient assez sympas, mais au final, bon, ça s'est quand même résumé au fameux sprint sur le mur de Huy, mais on l'attend à chaque fois. Et puis Liège-Bastogne-Liège, il y a eu des attaques, c'était sympa, tout s'est pas joué dans le mur dense comme ça joue la dernière fois, donc au final c'était plutôt pas mal.
Ouais. Bon, après, l'Amstel a du mal à lutter avec celle de l'édition de l'année dernière, parce que celle de l'édition de l'année dernière, quand même, c'était la fameuse attaque à 40 bornes de Gilbert. C'était de l'entertainment, on peut dire. Donc voilà, c'était la plus intéressante, en tout cas, de la saison 2017 de trois Ardennaises, quoi. Donc voilà.
Ouais, non, c'est un peu le même avis. C'est pas ouf, mais c'était sympa. On a une Amstel avec du mouvement, celle qui a le plus bougé. Une Flèche un peu surprenante. Je m'attendais vraiment pas à que ça bouge. Enfin aussi loin, je pensais que ça allait être comme d'habitude. Et Liège, honnêtement, je me suis fait chier jusqu'à la Roche aux Faucons, où là c'est parti, puis d'un coup on a eu plus qu'un tout petit groupe et c'était plaisant à regarder quoi, le final.
Mmh. Parce que Liège, il n'y a pas eu en fait les attaques traditionnelles dans la redoute, quoi. Du coup en fait on a patienté un peu plus que d'habitude. Bon du coup, allez, prise de décision, on fait ça course par course. Allez, on va se lancer dans ça. On va commencer du coup par l'Amstel, remporté par Gros Danois, comme il est surnommé, Michael Valgren, qui remporte la course devant Kreuziger et Gasparotto. Oui. Voilà. Et derrière, le sprint, un petit groupe de favoris réglé par Sagan devant Valverde. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette course? Qu'est-ce que vous allez dire sur cette édition où tout finalement s'est joué sur ce qui est désormais un petit peu un truc qui commence à énerver pas mal de monde, le fait que quelqu'un s'en va dans le final en facteur, quasiment. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition, des choses à dire dessus? Je vous laisse la libre antenne. Qui veut se lancer?
Gasparotto qui se réveille de sa torpeur annuelle pour aller claquer son podium comme chaque année, ça c'est incroyable.
Ah, c'est sa course. Hein.
Il fait rien de l'année, il va chercher le podium et ensuite il refait rien de l'année.
Voilà. Alors, celui qui fait à peu près pareil, c'est Albassini, mais il a raté cette fois-ci. Ah, on remarque qu'il a le tour de Romandie.
C'est pas vrai, derrière il gagne tout le temps ses
étapes. Oui, le tour de Romandie il gagne, ouais, ouais. C'est ça.
Et là, non, mais là cette année il est particulièrement invisible. Albazini, on l'a pas vu. On l'a pas vu, enfin tout simplement, il n'était pas là.
Ouais, il a été remplacé par Crozier cette année qui, pour le coup, a été vraiment impressionnant sur les trois Ardennaises. C'est très très régulier.
C'est ça, ouais. Crozier,
il fait 2, il fait 4 et je sais pas combien il finit, il doit faire 8.
Sur Liège, il fait 8, ouais, effectivement, ouais. Ouais, voilà. Crozier, un des mecs les plus réguliers de la campagne, ouais, on va forcément y revenir parce qu'il fait partie de ces renaissances un petit peu de cette saison avec un autre qui termine 10e d'ailleurs de l'Amstel, je crois, Van Aert. Ouais, ouais, Van Aert, il fait 10e de l'Amstel. On va y revenir parce qu'on Van Aert, ça va forcément l'évoquer quand on va parler de la flèche, etc. Donc voilà. Mais bon, concernant l'Amstel, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la course, Alex, on t'a entendu louer Gaspar Auto. Yann, je te laisse continuer.
Ouais, cette course, elle est bizarre. On sait que c'est toujours l'Ardennaise qui peut être la plus mouvementée, la plus intéressante. Là, on s'est retrouvé dans un final un peu particulier avec une équipe qui a bien joué sa carte, qui est Astana. Et derrière, les autres qui se sont enterrés. C'était une course sympa, globalement, hein, sur le final. Mais c'est un peu... Moi, ce qui m'énerve, c'est pas de voir un mec qui part tout seul en facteur, en fait. C'est de voir les autres qui s'enterrent. Et que ce soit Peter Sagan ou... Je peux comprendre qu'il ait pas envie de rouler, mais là, qu'on re-regarde un peu ce qui s'est passé à la fin, en fait, il a juste pas du tout eu envie de rouler derrière les gars. On parle même pas de répondre à une attaque. C'est juste le mec part devant lui, en particulier Gaspar Auto à la fin. Et bah, il se dit, bah non, si vous voulez y aller, allez-y. Moi, j'ai pas envie, mais je vais rester devant le groupe. Et puis je vous emmerde tous.
Ouais, bon, ben voilà. C'est-à-dire qu'en fait...
Ouais, mais c'est un peu frustrant, tu vois, de voir ça, alors que... Mais Valverde et Alaphilippe, t'as aussi envie de leur taper dessus, parce qu'à ce moment-là, ils se regardent aussi parce qu'ils veulent pas rouler avec Sagan. Et c'est chiant, quoi. Attaquez, les gars, faites un truc, mais... Ou collaborez, mais arrêtez de vous enterrer comme des enfants en vous regardant en chien de faïence.
Bah, clairement, dans le peloton, il y a quelques mecs qui, quand ils sont présents dans un groupe, tout le monde se regarde et personne ne veut rouler pour eux parce qu'on sait qu'ils sont plus forts que tout le monde au sprint. Ces deux mecs, c'est Peter Sagan sur des courses comme les Flandriennes, etc. Et c'est Alejandro Valverde sur des courses vallonnées comme les Ardennaises. Et là, il se trouve que c'est la course où ils sont tous les deux dans le peloton et tous les deux dans le final. Donc ça va être regardage puissance 10 000, quoi. Et c'est clairement ce qu'on a eu avec Peter Sagan qui nous a fait ce qu'il nous fait depuis quelques saisons maintenant, c'est qu'il en a tellement marre qu'on lui roule dessus systématiquement que désormais, ben, il laisse filer des fois de façon no brain total, mais il dit, ben, allez, vous voulez me faire perdre, ben, je vous fais perdre tout le monde. Bon, voilà. Et là, encore une fois, ça a été le cas. Et après, sinon, l'Amstel, qui est vraiment une course particulière, même au sein du triptyque ardennais, j'ai lu un truc sur le forum que je trouvais vachement juste, c'est-à-dire qu'en fait, l'Amstel est aux Ardennaises, ce que Paris-Roubaix est aux Flandriennes, en fait. C'est une course qui, au sein de la campagne ardennaise, est très particulière, et c'est des coureurs très différents des autres courses, en fait, qui peuvent y briller. Et c'est un petit peu ce qu'on voit, parce que Peter Sagan, je suis pas sûr qu'il brille sur la flèche, ça va être compliqué vu la raideur. Sur Liège, il y a un peu plus de débat à voir vu le côté assez attentiste qu'on a eu ces dernières années, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on a toujours des coureurs un petit peu particuliers, qui brille sur l'Amstel, et bon, ben voilà, ça a été encore une fois le castané. Craddock, 9e. Bon, mais c'était un échappé. Mais bon, voilà. Awen, on t'a pas entendu sur la classique hollandaise?
Ouais, ben, je rejoins Yann. Les favoris se sont vraiment enterrés et ont laissé partir les trois autres devant. Et ouais, enfin, ils ont un peu gâché le final. Même si c'était mouvementé, il y a eu plusieurs attaques. Notamment les échappées matinales qui, à un moment, j'ai cru qu'ils allaient réussir. Mais ouais, après, une fois que les trois sont partis, se sont regardés comme des cons, et puis bon, c'était fait.
Et on a vu, et c'est peut-être la classique où Alaphilippe est clairement le moins fort. Hein. On voit qu'il a du mal, etc. Il termine 7e.
Il a dit, de toute façon, en interview, que quand Valgren est parti, il pouvait pas suivre. En gros, il était complètement cramé. Déjà 10 bornes l'arrière.
C'est pour ça que je dis que c'est un peu particulier, parce que j'ai l'impression qu'en fait ça favorise énormément en fait les rouleurs aussi, hein, plus que les purs punchers. C'est pour ça que Alaphilippe, qui est quand même un gabarit et qui est pas un rouleur extraordinaire, qui est vraiment un puncher pur, c'est pour ça qu'à mon avis il a plus de mal sur celle-là, quoi.
Bon. Ouais, et puis il n'y avait pas la puissance quick step comme on l'a pu l'avoir sur d'autres courses. Aussi, là il s'est vite retrouvé avec Gilbert qui saute, et je pense clairement que Alaphilippe, tu le mets face à un mur tout seul, il démerde, enfin il fait sa vie. Tu le mets dans une situation de course un peu différente où ça se regarde, alors peut-être que c'est l'expérience qui va venir aussi avec le temps, mais il sait pas forcément comment gérer ça, Et le 1 contre 1 contre 1 contre 1, bah, c'est pas la marque de fabrique de Quickstep. Souvent, ils sont plus habitués à être à 2, voire 3, voire 4 dans un groupe. Et là, ils arrivent à mettre en place leur stratégie.
Mmh. Voilà. Et finalement,
Après, c'est pas des grosses côtes non plus sur la Mistel. Hein.
Non, clairement, c'est pas sa course.
C'est pas la même chose que les vraies Ardennaises qui sont dans les Ardennes. Les Flèche Wallonne et Liège, quoi.
Mais c'est peut-être pas un hasard non plus, par exemple, si bah justement, si Valverde, il s'impose jamais sur celle-là. Et mine de rien, Alaphilippe, il a des qualités qui se rapprochent de celles de Valverde. Et peut-être qu'il gagnera jamais l'Amstel, parce que c'est peut-être juste pas une course.
Après, le Koberg a été aussi un facteur dans la victoire de beaucoup de coureurs. Est-ce que si on mettait le Koberg en dernière difficulté, au lieu d'avoir la difficulté qu'on a eue là, est-ce que ça permettrait pas à quelqu'un comme Valverde ou à Alaphilippe de s'imposer?
Ouais, mais justement, c'est peut-être pas le but.
Il y avait déjà le Koberg avant, au final.
Ouais, parce que oui, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils l'ont enlevé dans le final.
Et au final, ça attendait le Koberg, et puis ça partait, c'était Gilbert qui partait.
Ouais, c'est pour ça, en fait.
Bon, après, on peut pas dire que le fait qu'ils aient enlevé le Koberg soit pas une bonne nouvelle, parce que justement, ça
ouvre
des courses. C'est beaucoup plus enlevé depuis qu'ils l'ont enlevé, quoi. C'est clairement.
Mais justement, si un jour ils remettent le Koberg, est-ce que Alaphilippe ou Valverde peuvent pas remporter cette course?
Oh, si, je pense que oui, là, du coup.
Oui, mais est-ce que c'est souhaitable?
Enfin, oui. C'est là la vraie question, c'est là.
Vraiment souhaitable.
Je trouve ça bien qu'il y ait une Ardennaise qui soit pour les
rouleurs, quoi.
Puncherons que pour les purs puncheurs.
C'est ça. Mais du coup, passons du coup peut-être à une Ardennaise qui est pour les purs punchers. Hein. Passons à celle qui se joue sur 500 mètres. Il fait combien le mur de huit exactement? Je sais. C'est quoi la durée, la distance exacte, ça doit être quoi? Ça doit être 400,
il fait 900, non? Il fait pas. Bah,
il fait 800 mètres.
Il fait 500, hein. Il fait 800 ou 900. Ouais.
Ah ouais, excusez-moi. Ok, donc le tout se joue sur le mur de huit. Je parle évidemment de la Flèche Wallonne, remportée cocorico par Alaphilippe. Alaphilippe qui est le premier Français à remporter une Ardennaise depuis. Laurent Jalabert, c'était quelle année? C'était 97, je crois, la dernière fois. 98. Oh là là. Les bonnes anecdotes à peu près. Hein, les bons chiffres à peu près. Là, j'ai pas du tout vérifié. Là,
je crois que c'est 97. Je vais vérifier rapidement, mais.
Ben, je te laisse vérifier.
D'ailleurs, pendant ce temps-là, le mur de huit fait 1 km 400 à peu près, mais les pourcentages les plus forts sont pendant à peu près 800 mètres.
Ok, ouais, bon après voilà, c'est traditionnel, c'est les organisateurs qui nous inventent des cols de 35 km alors qu'il n'y a que 12 km au-dessus de 5%, quoi. Hein? Hashtag la Volta.
Du coup, ça c'est fait.
Ah ouais, c'est pas un vrai podcast chasse patate si on clash pas la Volta au milieu quand même.
Et ouais, avant... 97, la dernière flèche de Javert.
Ah voilà, donc ça faisait du coup 11 ans, 20 ans, 21 ans. J'ai fait S, hein, les gars. Ça fait donc 21 ans qu'un Français n'avait pas remporté une Ardennaise. Et du coup, Alaphilippe, voilà, qui succède à Jaja, qui gagne donc du coup la course devant Valverde et devant Gilles Van Aert. Donc là, on va pouvoir en parler de cette renaissance, cette résurrection de Van Aert. Peut-être avant de parler de ça, la victoire d'Alaphilippe, clairement le plus fort, on peut pas le nier. Awen, je te laisse commencer.
Ouais, bah clairement, oui. Ça se voyait qu'il était beaucoup plus fort, et même quand on voit qu'il était tellement facile dans la route devant Van Aert. Et puis Valverde qui avait déjà fait un gros effort pour rattraper les quelques mètres qu'il avait concédés. Et puis bah, après, le fameux double kick.
Ouais, il est présent. Alors, on a tous un petit peu sué quand on a vu Valverde qui revenait quand même. Hein, parce qu'il il avait une bonne dizaine de mètres de retard et bim, il revient vraiment à deux vélos. On commence à dire, oula, attention. Et effectivement,
il revient presque dans la route, hein. Dans un moment.
Ouais, c'est ça. Et puis après, le fameux double kick, et dans les 50 derniers mètres, il s'envole à la Philippe. À la Philippe, on rappelle qu'il franchit la ligne en pensant qu'il n'a pas gagné puisqu'il pense que Nibali est encore devant et a remporté la course.
Ah, voilà. Pas déconner.
Ah bah... Alors, est-ce que du coup, alors, on a beaucoup parlé de course déclic pour Alaphilippe, dont on a pendant très longtemps dit qu'il avait du mal à gagner. Cette année, il collectionnait quand même les bonnes victoires d'étape, mais on disait, bon, il faut voir s'il va réussir à gagner une classique, et il l'a fait. Mais est-ce que du coup, ça compte, sachant qu'il a franchi la ligne sans penser avoir gagné? Hein, eh, Alex, je te laisse parler, parce que tu avais l'air de bien apprécier Alaphilippe.
Vous avez 3 heures.
Voilà, Alaphilippe, que t'avais dit quoi? T'avais dit un top 5 et c'est tout?
Un seul top 5, ouais. Ah, j'étais presque, hein.
Hashtag expertise, hein, comme d'habitude. Donc, Alaphilippe, ton avis sur cet homme? Est-ce que c'est le déclic? Est-ce que désormais il va tout gagner?
Ouf, question vraiment compliquée, j'en sais absolument rien. Pour moi, je dirais non. mais ça va l'aider à faire de meilleures performances. En tout cas, ça va pas l'aider à gagner le Tour du Pays Basque ou quoi que ce soit, mais ça va lui le revigorer pour gagner la Flash One l'année prochaine, ou Liège-Bastogne-Liège, ou claquer une étape sur un grand tour comme le Tour de France. Ça, je pense que ça pourrait être un vrai déclic. Oui. En tout cas, gagner une classique comme ça, en plus devant des mecs comme Valverde, bon, après, derrière Valverde, quand t'as Van Ender, Kreuziger, c'est pas ouf, mais il a enfin battu Valverde, il a enfin battu ce qu'on peut qualifier, je pense, comme sa bête noire. Après, je pense que maintenant, il est libéré, il sait, c'est bon, je peux battre Valverde, je peux faire de gros trucs, je peux aller claquer Liège-Bastogne-Liège, je peux aller claquer l'Amstel, je peux aller claquer une étape du Tour, ça sans problème.
Liège-Bastogne-Liège, où d'ailleurs, on a vu qu'il était sans doute le plus fort, mais il a joué le jeu d'équipe pour Jungles, quoi. Donc voilà.
Jungles, par contre, monsieur.
Jungles, ouais. Vous le faites, ouais, moi je le fais à la jungle en anglais, quoi, à peu
près. À l'anglaise.
Ouais, c'est ça. Yann, du coup, sur Alaphilippe ou même sur d'autres coureurs?
Ouais, alors je sais pas s'il va, il aura passé ce cap-là pour toute la vie, hein, mais je pense que c'est assez parlant de. Du changement qui est en train de s'opérer dans le cyclisme. Valverde, là, mine de rien, depuis, je sais pas, c'est la dernière fois qu'il a pas gagné d'Ardennes, ça doit remonter à 2013. Donc ça doit faire 5 ans qu'il en claque au moins une. Cette année, il en gagne pas. Alaphilippe, lui, gagne sa première. On parlera de Liège tout à l'heure, mais sur la doyenne, mine de rien, il était certainement très costaud, et s'il y avait eu une arrivée au sprint, certainement qu'il réglait Valverde aussi. Donc peut-être que ça va lui servir dès qu'en effet. Après de dire qu'il va tout gagner, je pense pas, mais je pense qu'il a compris comment gagner. Et tant qu'il sera dans une équipe comme Quickstep, je crois qu'il va en effet enchaîner pas mal de victoires.
Ok. Du coup, parlons quand même. Alors, on a parlé de Renaissance un petit peu, et c'était déjà montré les deux sur l'Amstel, mais là vraiment c'est les deux, c'est la course où ils sont le plus présents. C'est Van Aert et Kreuziger, qui sont deux coureurs. Alors. Quand même, deux coureurs assez différents dans leur sommeil, on peut dire. Kreuziger, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 2-3 ans où il fait quand même sa performance annuelle, j'ai envie de dire, mais où il est moins fort que. Enfin, c'est moins un leader qu'auparavant, c'est plus un équipé de luxe. Mais là, sur cette campagne, il a été extraordinaire. Et Van Aert, c'est l'homme aux jambes de cristal qui est blessé 90% du temps. Et quand il n'est pas blessé, il fait des trucs, on ne sait pas d'où il sort. Sa dernière bonne campagne de Classic Arnais, c'était quoi? Ça datait de 2000. 2013, je sais plus, 2014, je sais plus, où il avait fait pareil. Super régulier, je crois qu'il était placé sur les 3 Ardennaises, dans les 10 premiers. Et là, il nous refait quasiment la même, puisqu'il fait 10e de l'Amstel, 3e du coup de cette flèche en grimpant le mur de 8 pendant 90% du temps en tête.
Il a lâché son propre leader, Tim Wellens.
Ouais, exactement. Et il fait 11e de Liège en attaquant dans le final, en étant quand même assez impressionnant, même si au final, il se fait doubler par. Il craque complètement sur le dernier mur, quoi. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce duo de. Ouais, c'est les Jésus du cyclisme de cette année 2018. Je vous laisse y aller. Yann, je te laisse commencer peut-être.
Ouais, Kreuziger, je n'irai pas jusqu'à dire que tu vois, c'est une vraie renaissance. Le mec, il y a 2 saisons, ouais. Il était quand même là. Donc c'est...
Mais je te dis, il fait une perf par an. Il y a une course dans l'année, ouais, où il fait son.
Voilà,
perf,
pour moi, quoi. C'est. L'attendre à ce niveau-là, peut-être pas. En effet, il est au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Mais il n'est pas non plus. C'est pas non plus la vraie surprise du chef. C'est une belle surprise et c'est chouette qu'il soit revenu à ce niveau-là. Par contre, Van Aert, c'est surréaliste, mais c'est chouette. Enfin, c'est impressionnant de le voir à ce niveau-là, alors que moi, j'aurais pas misé un copec sur lui pour faire les perfs qu'il vient de faire. Là, j'étais en train de regarder, mais ouais, sa dernière campagne un peu correcte, ça doit être 2014. Donc, le mec, en 3-4 ans, il a rien fait. Là, il revient et il nous fait quasiment top 10 de partout, un petit podium sur la flèche. Il fait que 10 à Liège, mais il a.
11.
Ouais, 11, mais il a tenté un gros numéro, donc c'est cool. Et clairement, c'est la très très belle surprise des Ardennaises.
Ouais, clairement, ouais, c'est clair et net. Alors que beaucoup misaient sur Wellens, qui chez Lotto faisait un très bon début de saison. Et Wellens qui. Bon, du coup, Wellens est éclipsé par les performances de Van Aert, mais Wellens, c'est quand même une bonne campagne pour un mec qui, auparavant, on misait sur lui depuis ça fait quoi 3 ans qu'on dit. Un jour, il va claquer une Ardennaise, et à chaque fois, il passait complètement à côté de sa campagne. Il se montrait en attaquant de loin, mais il n'y avait pas de résultat au final. Et là, cette année, mine de rien, Wellens, je crois qu'il est dans les 10 sur 2 ou 2 des Ardennaises.
Il fait 6, 7 et 16.
Ouais, voilà, donc il est. Wellens, il est plutôt. Voilà, c'est sa première campagne réussie, j'ai envie de dire.
D'ailleurs, Wellens... il était impressionnant sur Amstel Gold Race, ça se demandait comment il n'a pas gagné.
Effectivement, ouais. Awen, je te laisse.
Il me semble qu'il a râlé après la flèche, hein, par rapport à Van Aert, alors que Van Aert était juste complètement au-dessus. Il a été incapable de le remonter. Mais oui, il fait un gros début de saison. Je pense qu'il manque un peu de fraîcheur. J'ai l'impression qu'il était tout le long de la saison au top. Et je
Ouais.
pense un peu comme Valverde. Ils ont été très bons au début de saison et puis j'ai l'impression qu'ils ont manqué un peu de fraîcheur. Mais sinon, ouais, bah, il fait enfin une classique digne de son rang, quoi. Il est à ses positions et ouais, bah, sinon, bah, c'est Van den Derde qui était juste complètement trop fort.
Ouais, et d'ailleurs, ça a pas aidé dans l'ambiance dans l'équipe, puisque visiblement, effectivement, Wellens a râlé auprès de Van Aert après que celui-ci ait, entre guillemets, pas joué son rôle d'équipier dans le mur de but. Mais après, là aussi, ça va râler, c'est quand on a vu sur Liège, carrément, Van Aert ramener tous les favoris sur Wellens alors que celui-ci avait attaqué, quoi. Là aussi, il va y avoir une explication dans le but, je pense, hein. Mais bon.
Bon, je suis pas sûr hein, pour
Après,
je
oui,
sais pas pour Liège, je suis pas sûr que ce soit parce que Willems on l'a quand même vu bûcheronner pour Van Ender, enfin, clairement, tu vois. Donc je suis pas certain que ce soit. Enfin, en fait, moi, j'y crois pas complètement à leurs problèmes dans l'équipe. J'ai l'impression que c'est un peu du vent et que ça a été un peu monté par les journalistes.
Ouais. Bon, après, c'est l'auto, hein. Il faut se rappeler que c'était Montfort et c'était qui s'était tapé dessus à une arrivée du Giro? C'était Montfort et je sais plus qui. Et Vandenbroek, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Vandenbroek et Montfort qui s'étaient tapés dessus à une arrivée du Giro parce que je crois que Montfort n'avait pas travaillé pour Vandenbroek. Enfin, il y avait une embrouille il y a quelques années. Voilà, il y a du passif hein, dans cette équipe, visiblement. Affaire à suivre, effectivement. Bon, après, voilà. Quand même, campagne de classique de l'auto. Ils n'en gagnent pas une, mais en termes de placement, ils sont là présents sur toutes les courses. C'est pas raté, quoi. À part sur Liège, un petit peu, où c'est seulement 11e, quoi. Donc voilà. Des choses à rajouter sur le mur de vie des coureurs dont on n'a pas
Matthews,
parlé? Oui.
Matthews qui fait 5 et qui d'ailleurs à l'Amstel crève juste avant le Koberg, du coup il perd toutes ses chances. Et là, le mur de 8, je l'attendais tellement pas à ce niveau, et il va quand même chercher le top 5.
Ouais, Matthews, blessure hein, depuis le début de saison, blessure au dos, il me semble. Donc voilà, c'était clairement un des acteurs d'ANR dont on ne s'attendait pas à le revoir. À ce niveau-là, vu ses problèmes physiques, et ben finalement, ouais, il nous a claqué une bonne flèche. Bon, après, il a craqué sur Liège. Hein. Sur
Ouais,
Liège.
on dirait qu'il a mal récupéré de son ascension numéro 2 lui, à mon avis.
Oui, après, lui, je pense pas qu'en termes de préparation, il soit au tip-top. Hein. C'est un petit peu un miracle, hein, sa cinquième place. Hein. Je sais pas trop comment il l'a fait, moi non plus. Hein.
Ouais, après, je pense au mur de vie, puis plus généralement à la flèche wallonne. Celui qui me pose question, moi, c'est Nibali, où je me demande justement s'il en a pas trop fait
Ah, ben oui.
sur la flèche. Et au final, bah, tout à l'heure, pétage de caisson, c'était où? C'était La Rochefoucauld où Nibali a disparu?
Bah ouais, juste après,
Ouais,
bah
je
en
crois que c'est
fait,
La Rochefoucauld.
juste après que c'est là où tout a pété, ouais.
C'est ça,
Bah,
là
c'est
où.
là où Matthews a sauté aussi, en fait. Il a sauté
Ouais,
en même
c'est
temps que
là
Matthews.
où
Et,
Kwiatkowski aussi a sauté,
ouais,
ouais.
mais tu vois, Kwiatkowski, on s'y attendait. Enfin, pour moi,
Bah,
c'était écrit qu'il allait sauter.
il a fait pas
Mais.
mal d'efforts aussi sur la flèche, quoi.
Et puis surtout, Nibali en plus a craqué juste après que son équipe ait vissé comme des malades dans le pied de la bosse, quoi. C'est-à-dire que, en termes de tactique, c'était tip-top là aussi, hein. Je sais pas, mais.
Ah bah après,
Non, mais
pareil, on peut y revenir, hein, mais sur
Ah, ils ont
le.
fait 5-6 avec Podolizo et
Oui, après, oui.
Gasparotto.
Ouais, mais justement, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais leur Liège, il est dégueulasse à Bahreïn.
Ah oui.
C'est un péché ce qu'ils ont fait, c'est un crime.
Bon, et du coup, on peut peut-être passer à Liège si on a fini avec la flèche, avant que vous ayez vraiment des choses à mettre en lumière sur cette classique-là particulièrement. Après, je vous rassure, hein, une fois qu'on aura fini avec Liège, on fera un truc général, entre guillemets, un petit bilan. On pourra parler des mecs qui ont raté globalement leur campagne ou pas. Mais est-ce que vous avez des choses à dire sur la flèche ou on passe à Liège?
Bah
Eh ben voilà, très bien. Ben voilà, le silence est roi. Du coup, on passe du coup à Liège-Bastogne-Liège. Course remportée par Bob Jungels après une attaque à quoi? Il était à quoi? 25 km de l'arrivée, il me semble.
Et ben il
Ouais,
part où
c'est
il part
ça.
non.
Au sommet de la roche, quoi, tout
Ouais,
simplement.
c'est ça.
Après avoir contré Henao de façon assez impressionnante, il s'en va et il termine en solitaire avec quasiment une quarantaine de secondes d'avance sur deux petites surprises. Plus ou moins, Michael Woods, Romain Bardet, peut-être pas les mecs qu'on attendait aussi haut en tout cas. Alaphilippe fait 4 en réglant en fait le groupe des favoris en fait devant Pozzovivo et Gasparotto qu'on venait d'évoquer. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette course?
Minable jusqu'au bout, les Bahreïnais, ils sont même pas foutus d'aller chercher le
Eh ben
sprint.
vas-y, Alex, je te laisse commencer. T'as l'air d'être déterminé là.
Alors je vais la laisser à Yann parce que moi, j'ai pris la course, c'est déjà passé Saint-Nicolas, donc je vais laisser à Yann qui connaît mieux la stratégie de course.
Bon, ben Yann, du
Je
coup.
suis désolé.
Ouais, après, alors globalement, déjà sur la course, On va pas se mentir, hein, c'était pas le truc le plus fun du monde, mais si on compare par rapport aux dernières années, ça a été un peu plus fun dans le final.
Dans ça ce a cas-là, bougé, ça a tenté. On parle de moins pire, ce qui est jamais très bien.
Ouais, bah, c'est une réalité. On parle de mieux d'un côté, quand tu parles de moins pire, tu parles de mieux aussi. C'est une réalité, c'était pas... On va pas se mentir, la course elle fait 255 bornes, tu regardes les 40 dernières, t'as tout vu, enfin, quasiment. Mais bon, au moins, là tu pouvais allumer avant les 5 dernières bornes pour voir un peu de spectacle et un peu de mouvement. Après, globalement sur la course, clairement Quick-Step du tableau noir, mais vraiment à tous les niveaux, l'auto, de belles intentions... Mais des coureurs à moitié tadjik, mais je l'aime bien, je l'adore Tim Wellens, mais j'ai l'impression que ce mec il est toujours soit à moitié à contre-temps, soit qu'il va trop en faire, soit qu'en montrant qu'il est super fort, bah, il va refroidir tout le monde. C'est une sorte de paradoxe ce gars, mais bah, je le trouve
C'est son problème depuis le début de sa carrière.
C'est, ah ouais, mais là c'est encore plus flagrant aujourd'hui. Pareil pour Van Aert, bref, en tout cas les lotos m'ont bien fait plaisir. Et en fait, à l'opposé de cette stratégie, t'as entre autres Bahreïn. Où là les mecs ils vont être deux dans le top 10 quand l'auto va en mettre aucun, il finit 11e Van Aert, sauf qu'en fait Bahreïn ils ont rien fait, leur leader il saute, ok, ils se retrouvent avec Gaspar Auto qui est encore là et Pozzo Vivo, et les deux ils vont fumer la pipe tranquillou dans le groupe des poursuivants au lieu de tenter une stratégie comme l'auto a pu faire qui a foiré, mais comme Quickstep ils vont juste rien faire. Et c'est ça qui est décevant, en fait. C'est à partir du moment où Jungels est parti, on s'est dit, bon, il est en train de plier le jeu parce que derrière, il a Alaph qui est en train de calmer tout le monde, qui d'ailleurs a bien joué son rôle pour le coup derrière, vu qu'il prenait quasiment tout le temps la roue. Il y a les lotos qui ont tenté d'inverser le truc, mais à aucun moment, ils se sont dit, les Bahreïn, on va peut-être aider Villela qui est en train de se faire victimiser tout seul par Jungels, parce qu'à distance, il a pris 10 secondes. Sunweb, ils ont un peu fait pareil. Alors que, je sais, peut-être que Dumoulin était pas très bien, mais il n'empêche que si les mecs qui avaient deux coureurs comme la Bahreïn, Astana, ils l'ont fait, et éventuellement Sunweb, et peut-être même Mitchelton d'ailleurs, parce que Jack Egg, il a servi à rien, à part relayer un peu sur la fin, si eux ils s'y étaient mis, on aurait peut-être eu une vraie chasse, quoi, un vrai affrontement entre Jungels et le reste. Alors que là, on s'est retrouvé sur un superbe numéro d'Jungels. Des tentatives un peu débiles, mais plutôt, ouais, pas complètement débiles. Van Aert, il a essayé de partir quand même, c'était plutôt chouette, et bien pensé dans Saint-Nicolas, mais voilà, derrière, c'était rideau, quoi. Et les stratégies d'équipe, des fois, on se dit, il y a Quick-Step à une époque, on se foutait de leur gueule, mais maintenant, c'est devenu des maîtres là-dedans, ils appliquent leur truc et ça marche, quoi.
Bah, les seuls qu'ils ont pas gagné, c'est quoi? C'est l'Amstel et c'est Roubaix, toute la campagne, quoi.
Et à un moment, c'est bon, là en plus, ils peuvent se le permettre. Ils ont une stratégie d'équipe du tonnerre et certainement peut-être les deux meilleurs. Je veux dire, Alaphilippe derrière, il était en promenade, hein. Il faisait ce qu'il voulait. Il y a juste quand Van Aert part qu'il aurait dû prendre la roue. Là, il était peut-être un peu derrière, j'ai pas revu les images, mais sinon, il faisait ce qu'il voulait. Le nombre de fois où il a cassé le relais, où il les a suivis, enfin, il était en balade.
Ouais, effectivement. Awen, je te laisse partir sur ton analyse de la course, un petit peu compléter ce que vient de dire Yann, peut-être parler de Woods et Bardet. Et Bardet quand même qui s'en est pris plein la tronche sur le forum, hein. Moi à chaque fois ça m'hallucine, le mec fait 3ème, il a attaqué au moment parfait, certes à 2,5 km de l'arrivée, mais bon, hein, je suis désolé.
C'était pas à lui de rouler non plus, il avait pas d'équipier, il a bien fait de partir avec Woods après, vu que c'était les deux qui étaient seuls, mais Bardet, ouais, il a joué la gagne, mais bon, devant Jungels, c'était imprenable une fois qu'il était parti après sa grosse attaque. Et Van Aert qui part, je sais pas, ça met un peu de temps avant de comprendre qu'il était parti. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et puis une fois qu'ils ont, d'ailleurs, je sais même pas qui l'a rattrapé.
Il s'est fait complètement exploser sur Reims, en fait. Hein.
Il s'est fait reprendre par le duo Bardet-Woods, et puis après, reprendre par les poursuivants.
Voilà. J'ai pas vu ça comme ça. Bardet qui va chercher le podium. Il était sur une bonne forme après son incroyable deuxième place sur le Tour du Finistère. Et puis, Alaphilippe 4, qui était clairement le plus fort, qui a très bien géré. À part le cas Van Aert, il a très bien géré les autres. Mais c'est un peu les autres. À part Quick Step et Woods et Bardet, Le reste, c'est un peu à la poubelle, quoi.
Ouais.
Bon, on a...
Si, Formolo. Formolo qui était aussi solo, qui termine
Ouais,
septième, truc un peu
Formolo,
improbable, voilà.
ouais. Ouais,
Ouais,
si.
alors Formolo, ouais. Formolo, c'est pas mal joué. Ouais. Mais bon.
Et Nao qui vient taper le top 10 pour la Sky, enfin.
Voilà, c'est la fin de la série noire. La Sky qui n'avait pas fait de top 10 depuis je sais pas combien de classiques. Il y avait une liste qui était en course. Ça faisait moins 5 ou 6 courses. Ça y est, le top 10 est arrivé. Bon, c'est une 9e place de Henao sur les Jeux Battle Liège. Je suis pas sûr qu'ils se contentent de ça. On va pas se mentir.
Sinon, la EF a sorti le grand jeu sur ces Ardennaises. Ils ont réussi à claquer un podium et une 9e place avec Radoc sur l'Amstel, alors qu'ils n'ont rien branlé de toutes les courses.
Ah aussi Dan Martin qui
Ah,
semblait
sérieux.
retrouver ses jambes et qui a crevé au mauvais moment.
Bah, il a fait une Dan Martin. Hein.
Ouais,
Ah, mais c'est là où
ouais.
c'est fou. C'est que
Enfin, il
tu
a fait
dis.
une EF, quoi. C'est incroyable quand même.
La UAE, n'empêche, ils ont aligné Martin, Costa et Ulissi sur une même course et ils n'ont pas fait un top 10.
Ouais.
C'est assez incroyable.
Bon, après Costa, moi j'ai Costa, j'ai quand même l'impression que ça fait 2 saisons que c'est la fin, hein, Costa. Hein. Il a fait 2, 3 grosses campagnes de classique quand il était 2013-2014. Je sais même pas si 2015 il a fait une bonne campagne. Je sais que 2014 c'est sa meilleure année, il me semble. Mais depuis Costa, c'est clairement, il est reparti au second plan, quoi, dans la hiérarchie mondiale.
Après Costa, c'est un coureur qui s'en sortait aussi beaucoup par son flair et ses
Ouais.
tactiques de renard. Et il y a un moment, quand t'es pas le meilleur, mais que t'es dans les meilleurs, ça peut faire. Mais là, il est en train, enfin, il vieillit, il a plus de niveau par rapport à il y a quelques années. Donc maintenant, ses tactiques, elles peuvent plus marcher parce que les mecs, ils ont juste à l'aligner et puis ciao.
Ouais, voilà. Il y a de plus en plus de coureurs qui sont arrivés à son niveau, enfin qui même l'ont dépassé. Quand t'as 20 mecs, 20, 30 mecs qui sont plus forts que toi, ça devient impossible à gagner.
Et au final, quand même, pour revenir vite fait sur Woods et Bardet, j'ai l'impression qu'en fait, les mecs qui font 2 et 3, c'est les mecs les moins rapides de tout le groupe des favoris. Hein. Donc finalement, ça confirme l'idée que
Woods,
c'était.
il a une bonne pointe de
Ouais,
vitesse quand
Woods,
même.
ça va, hein,
Wood,
franchement.
ah ouais? Je sais
Il a
pas, je me suis pas.
tapé des mecs sur le Tour Down Under, il a tapé des mecs sur le Giro.
Si t'as
S'il
vu
arrive un groupe de
Kreuziger et
10,
Bardet, là,
généralement
tu te
c'est
posais des
Woods.
questions.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, après, voilà. Mais après, Bardet, mine de rien, 9e sur la flèche, 3e sur les bastonnages, au passage, du coup, 2e podium sur un monument cette année pour AG2R Mondial. On peut dire qu'il y en a qui le critiquent, mais il a complètement réussi sa classique. Est-ce qu'il pouvait faire mieux qu'un podium et un top 10 sur les deux? Il s'est mis sur 2 Ardennaises, il s'est présenté, il fait top 10 podium. C'est quand même, bon, voilà.
Bah, tu vois, enfin, je vais peut-être être un peu dur, mais moi j'aime plutôt bien AG2R de base. Mais je pense que tant qu'il sera dans une équipe comme AG2R qui est quand même pas mal axée grand tour, même si ça se diversifie un petit peu, il pourra que difficilement faire mieux. Le mec, c'est pas Valverde, donc sur une classique de ce genre-là, s'il n'a pas une
Oui,
équipe
mais
monstrueuse
il
ou
faut le
personne,
surnombre.
il pourra pas. Enfin, il y a un moment, ça reste un coureur de grand tour, il n'a pas ce punch que peuvent avoir les autres punchers
C'est
purs, et
sûr.
il n'a en plus pas l'équipe pour l'aider.
C'est sûr que c'est fait. AG2R, même chez vous. Moi aussi, je suis supporter personnellement d'AG2R, donc
Après,
j'adore
Jungle,
l'équipe.
c'est pas un puncher non plus, hein.
Oui, mais voilà, mais je veux
Ouais,
dire
mais il a l'équipe.
qu'AG2R n'a. Ouais, AG2R n'a pas la densité que peut avoir effectivement Quick-Step, ou même Astana qui fait le coup avec Valgren sur l'Amstel. Ou potentiellement, pourquoi pas d'une Bahreïn s'ils arrivaient à faire 2-3 trucs avec leurs neurones qu'ils ont dans la tête. Enfin, il y a clairement des. Y a, fait, H2R en termes de hiérarchie sur les classiques pour puncher, ils sont clairement pas dans les premières positions. Et donc pour que Bardet gagne, en fait, il faudrait justement. Pour moi, la seule façon qu'il gagne, il faudrait qu'il accompagne un des mecs de ses équipes, Astana, Quick-Step, lors de l'offensive à 30 km de l'arrivée. Voilà, c'est à peu près le seul scénario dans lequel je vois un Bardet capable de jouer vraiment la
Ouais, mais
gagne, quoi.
sauf que tu peux le retourner aussi dans l'autre sens dans ce cas-là. Bardet, il part avec Jungles. Jungles, il s'arrête de rouler.
Bah ouais, c'est pas faux. Bah,
Et il a
quoi.
Alaphilippe derrière, il va pas emmener Bardet qui peut le crucifier potentiellement sur des pentes plus dures pour se faire défoncer derrière. Tu vois,
Est-ce
il
que.
peut très bien
Alors
dire, bah non,
là, ça
j'emmène
serait
Bardet derrière.
terriblement dépressif de me dire qu'un mec qui s'échappe avec un autre mec. Enfin, deux mecs qui partent, qui vont se jouer la gagne. Il y en a un des deux qui décide de finalement complètement arrêter parce qu'il a potentiellement
Ouais.
une autre carte derrière. Enfin, là, quand tu
À
pars à
mon
deux pour
avis,
gagner un monument,
surtout
tu.
Jungels, il pensait pas aller gagner là, je pense, sur son attaque. À mon avis, il pensait pas qu'il allait jouer la gagne. À mon avis, il pensait qu'il allait acheter du temps pour Alaphilippe, dégager quelques équipiers derrière et puis c'est tout. À mon avis, il s'est vraiment rendu compte que ça y est, il pouvait gagner quand l'écart s'est vraiment creusé. À mon avis, quand il a fait l'attaque, la tactique c'était pas du tout d'aller jouer la gagne, c'était d'éliminer des équipiers derrière pour qu'Alaphilippe puisse en placer une plus tard.
Après, Jungle s'y gagne parce qu'il attaque au bon moment, mais aussi parce qu'il est monstrueusement fort. Hein. Je fais dans la roche, la manière dont il contre Henao et Martin, c'est quand même super impressionnant. C'est pas Martin, je crois que je confonds avec un autre coureur. Mais
c'est Dumoulin qui est avec Henao.
Ah oui, voilà, voilà, il y a Dumoulin et après Henao qui repart. Et la moyenne, il revient sur Henao à une vitesse.
Il le lâche,
il est sur place, quoi.
C'est assez impressionnant. Ouais. Voilà, après, vu que c'est un gros rouleur, il a très bien enchaîné.
Véritablement, Yann, tu penses que si jamais Jungles est avec Bardet, Jungles arrête de collaborer?
J'en sais rien, tu vois, je peux pas te dire.
Non, mais si c'est ça, sûr, putain, mais c'est, moi, ça c'est grave, ouais, quoi. Mais, parce que...
bah, c'est pas grave. Mais non, ça reste un sport d'équipe à un moment, le cyclisme aussi. Jungles, si t'es avec un mec. Alors après, l'avantage qu'il a, Jungles, c'est quand même qu'il a une pointe de vitesse qui est plus intéressante que celle de Bardet. Mais je sais pas si avec Bardet, mais peut-être qu'avec certains adversaires, ça me choquerait pas qu'une gueule s'y dise, bah.
Bon, si part avec.
Démerde-toi, roule.
Non, mais. Si part avec 4 autres gars, s'ils sont 5 à la rigueur, oui, t'as une chance sur 5 techniquement de gagner. Mais si tu pars avec un mec comme Bardet, t'as une chance sur 2, tu privilégierais un Alaphilippe qui va être dans un groupe avec 10 autres mecs. Je sais pas. Moi, ça me paraît quand même. Je sais pas, tu te
alors,
retrouves
je pense que à ce moment-là, tu privilégies le fait de laisser un peu bosser, de lui dire bah roule, éventuellement tu prends quelques relais, mais surtout tu essayes de t'en débarrasser. Ton intérêt à toi, il est que t'as ton leader derrière.
Tu joues le bluff sur le dernier kilomètre. Vraiment, tu le laisses vraiment
faire. Ouais, s'il faut. Ah ouais, clairement. Ah bah, sur le dernier kilomètre, Jungles, à aucun moment, s'il est avec Bardet, il faut qu'il prenne le moins de relais sur le genre de truc. Tu sais que t'as Alaphilippe qui est potentiellement le plus fort derrière.
Ouais, effectivement. Des choses à rajouter sur cette classique Liège Bastogne-Liège où on entame le bilan vite fait, le bilan global des Ardennaises?
On n'en a pas parlé, mais Barguil, il a sauté comme un popcorn dès que ça s'est mis à s'énerver un petit peu. Enfin, il y a un moment où on nous en parlait un peu sérieusement. Pareil pour Tuns. Tuns, aujourd'hui, il a disparu en quelques minutes.
Ouais, c'est pareil, comme Tuns, aussi.
Il était encore là après la Roche au Faucon, il me semble, Tuns, mais après il a complètement explosé. Hein. À moins que ce soit un autre BMC.
J'ai l'impression que Tuns il a roulé un peu pour Wallens.
Non, c'est... Oh. Il n'y a qu'un seul BMC devant.
Ouais, Tuns 20ème.
Mais attends, Tuns il aurait roulé pour qui?
Non, mais il a roulé pour personne, Tuns, hein, je pense.
Ah non, c'est le leader.
Il n'est pas la même.
Ah non,
c'est
sûr
que c'est pas la même équipe que Wallens. Enfin, il a pas. On n'est plus sur les équipes nationales.
Ouais.
Non mais Tuns, je me souviens, il me semble qu'il est dans le groupe après la Roche au Faucon, au moment où justement Jungle s'en va, et c'est après qu'il doit complètement exploser, parce qu'il termine comme assez loin, il termine à 3 minutes. Hein, donc,
il termine dans le temps de Rui Costa et de,
ouais, voilà.
Et de Gourdanois. Donc.
Il a dû exploser juste derrière, quoi. Voilà, effectivement.
Sinon, par contre, aussi, autre déception, Calme Jeanne, qui se voyait déjà faire un top 10 sur une des Ardennaises, qui finit avec Barguil, voilà. Il finit à 3 minutes 30, il finit avec Ouran, Roland, Kizerlovski, Michael Scherel et Axel Domon. Voilà.
Donc, Majka aussi, qui est encore plus loin.
Bon, après, Majka,
c'est la seule Ardennaise qui fait. Hein, donc bon.
Bah, j'ai l'impression qu'on a joué plus la carte McCarthy pour Bora. Ouais. McCarthy qui a aussi sauté d'ailleurs, mais qui termine dans le gros groupe.
Bora, ils ont Formolo qui est 7ème, quoi. Mais voilà, en fait, ils ont limite eu un mec différent à chaque course, quoi. Ils avaient limite Conrad. Conrad.
Confond, ouais. Flèche.
Ouais, t'étais sur la flèche, donc. Bah, sur l'Amstel, je crois qu'il termine 10ème, Conrad. Et puis après, sur un truc comme la flèche, ça doit être McCarthy qui devait être privilégié. Et là, finalement, sur Liège, c'est Formolo. En fait, limite, ils avaient une carte différente pour chacune des classiques, Bora. Et pour revenir, en fait, sur les Français. Mine de rien, on a une campagne qui est super bien en termes de résultats, puisqu'on a donc une victoire avec Alaphilippe et un podium avec Bardet. Mais derrière, les seconds couteaux français se sont tous ratés. C'est-à-dire que, bon, Cocard sur l'Amstel, voilà. Effectivement.
Il y en a sérieusement qui attendaient Cocard sur l'Amstel.
Personne n'attendait. Enfin, lui s'y attendait en tout cas. Lui, il a dit je me suis préparé. Enfin, toute l'équipe disait c'est sa course de l'année. Mais ben, voilà quoi.
Je crois qu'ils ont terminé à 1.
Voilà, Calmejeune qui se rate et Barguil qui se rate. Hein. Les seconds couteaux français, c'est
passé
à la trappe.
Il y a Mollard aussi. Mollard qui fait une...
Ouais, mais Mollard, il fait top 15 à chaque fois. Hein.
Ouais.
Ça va. Enfin, c'est...
Bah, tu mets Mollard qui gagne. Hein. Tu mets Viermoz aussi, alors, à ce moment-là. Viermoz qui fait
malade. Malade, ouais, il a abandonné.
Non, mais je parle sur la flèche, parce que Viermoz, il avait des vraies ambitions. Et comme je disais, c'est vraiment un type qui est... supra fort sur les pourcentages hyper importants, donc c'était vraiment une course taillée pour lui, et lui-même je pense qu'il fit 15ème, je crois, il était super déçu, hein. Il avait dit dans l'interview qu'il avait travaillé énormément pour cette course et que sa 15ème place était une énorme déception, donc voilà, lui aussi s'est un petit peu raté sur sa course du début de saison, quoi. Du coup, des choses à ajouter. Alors là, du coup, on passe vraiment sur le côté général des Ardennaises. Là, des choses que vous avez à mettre en évidence qui concernent vraiment toute la semaine en fait en elle-même.
Ouais, vous avez vu les Cofidis sur une des courses?
Il y a Errada qui était là,
bah,
le
y a eu...
groupe.
Puis il y a Navarro qui a chuté aussi tout à l'heure.
Oui, on les a vus, mais
voilà.
Pas en bonne.
Enfin, Navarro.
Personne ne veut parler de Nibali quand même. Nibali qui sera sur les trois Ardennaises. On l'a vite fait évoquer quand on a.
Mais... On peut pas dire qu'il sera sur la Flèche Wallonne.
Oui, bon, la Flèche, oui, c'est pas une course pour lui.
Personne ne l'attendait vraiment, surtout.
Voilà. Sur les deux. Wallonne. Sur l'Amstel et Liège, quoi.
Ah, sur Liège, il était quand même attendu. Il y avait une bonne partie du forum qui a cru.
Oui, et puis l'équipe.
Est-ce que c'est
l'équipe travaille pour lui?
Bah, ça lui convient. Ça lui convient beaucoup plus, Liège, que la Flèche.
Et même que l'Amstel, j'ai envie de dire. C'est vraiment la. S'il y en a une des trois qui peut gagner, c'est Liège, clairement. Mais là, effectivement, la forme n'est pas là, hein, je pense. C'est
ouais,
bluff,
mais
hein.
Nibali n'a-t-il pas déjà réussi sa saison en gagnant Milan-San Remo?
Ah oui, alors c'est du coup, comme il a gagné Milan-San Remo, maintenant, il faut excuser tous les trucs qui ratent, quoi. Et ça
ouais,
va, eh oh,
ça.
Hein? Calmez-vous, hein. Ok, bon, ok. Alors, mis à part Nibali, peut-être parler d'autres coureurs. Alors, si, j'ai peut-être un, un sujet, attention, Clira, accroche-toi. Hein. Ne fais pas d'arrêt cardiaque après ce que je vais dire. Est-ce que c'est le début de la fin pour Valverde? Parce qu'effectivement, comme le disait très bien, je crois que c'est Yann qui le disait, depuis 2013, à chaque fois, il a gagné au moins une des Ardennaises dans sa campagne. Là, il rentre bredouille, il rentre avec une, deux placettes et un podium. Qu'en est-il de Valverde? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est juste... Bon, voilà, cette année, c'était pas pour lui, mais est-ce qu'il est toujours dans la course pour les années suivantes? Sachant que l'âge, les années passent et l'âge avance. Awen, je te laisse commencer sur LM Batido.
Déjà, j'avais dit que Valverde ne gagnerait pas une des trois Ardennaises. Et bon, heureusement, il n'en a pas gagné. Je pense surtout comme j'ai dit tout à l'heure avec Wellens, ils étaient en forme très tôt dans la saison. Et je pense qu'ils ont manqué un peu de fraîcheur. Et en même temps, pour Valverde, il commence bien évidemment à stagner. Il a 30, 38 ans ou je sais pas quoi. Et à la différence d'un Alaphilippe, lui qui rentre dans la force de l'âge et qui a juste passé un cap, comme on l'a vu sur la flèche. Et je pense que Valverde, il est en train de décliner petit à petit.
Ah, il serait temps. Hein.
C'est bientôt la fin.
En fait, il a eu aussi une équipe qui n'était pas super aussi forte que les années précédentes, j'ai envie de dire. Ça
ouais.
aussi, ça a pu jouer en sa défaveur.
Ouais, voilà,
parce
il avait.
Là,
il avait Landa.
Voilà, Landa.
Il avait
vraiment...
Landa solaire. Même, donc,
Et puis sur Liège, il avait personne.
Oui, voilà. Enfin, la Movistar a été beaucoup moins performante que sur les années précédentes, beaucoup moins collectivement performante que sur les années précédentes. Landa était très fort sur la flèche, notamment la flèche. C'est le dernier équipier pendant 40 bornes et il arrive à chaque fois à être là. Et il arrive même à replacer Valverde au pied du mur. Mais après, pour les autres collègues, Bettencourt, bon, hein, voilà, bon, Bettencourt, de toute façon, c'est une chance sur une
c'est
course,
fini.
Il va être monstrueux et neuf où il va être complètement à côté. Et puis même Roras ou Solaire était là, je ne savais même pas que Solaire était là. Mais voilà, sur le papier, il y a quand même un énorme collectif chez Movistar, mais il a un petit peu failli, j'ai l'impression, sur cette campagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alex, je te laisse.
Ouais, après, il faut relativiser aussi. Il me semble que l'année dernière, Valverde n'était pas super bien entouré non plus. Il faut remonter à l'époque où il y avait Daniel Moreno et compagnie, où ils avaient vraiment fait du travail collectif. Après, je ne pense pas que ce soit le début de la fin non plus. À mon avis, comme ça a été dit précédemment, Valverde il a fait un gros début de saison. Il a ramassé énormément de victoires. C'est le coureur le plus régulier depuis le début de la saison avec Peter Sagan. À mon avis... Si l'année prochaine il revient et il prévoit son pic de forme parfaitement pour les Ardennaises, il peut aller en reclaquer une ou deux. Il n'y a aucun souci. Chaque année, on enterre Valverde, on dit est-ce que l'année prochaine c'est fini? Et l'année prochaine, à chaque fois, il revient et il fait une saison incroyable. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait. À mon avis, début de la fin pour Valverde, c'est quand il l'abandonnera sur une des Ardennaises.
Après oui, effectivement, comme vous dites, il y a. Alors, je crois que j'ai vu passer sur le forum, c'est Jackie Durand qui a dit que justement il avait surcompensé après sa blessure et sa demi-saison blanche suite à sa chute sur le Tour de France, que du coup il avait voulu se réentraîner et revenir au top hyper rapidement et que du coup effectivement il était au top de sa forme en début de saison et que là du coup il était sur une forme descendante pour les Ardennaises. Je sais pas, ça me paraissait plutôt effectivement
ouais,
bien vu.
Il me semble que dans ses entraînements, il était déjà au top en octobre.
Du coup, des choses à rajouter sur la campagne dans sa généralité, des coureur qu'on n'aurait pas encore évoqué, même si j'ai l'impression qu'on a fait une belle revue d'effectifs tout de même, des
on
mecs
a fait
qu'on aurait
tout le
oubliés.
monde, là. Bah, la BMC.
Bah oui, alors des gens qu'on n'a pas vus du coup, la BMC, oui, vas-y.
Oh bah c'est les Tuns, quoi.
Bah, ouais, Dylan Tuns qui a explosé dans le mur de lui, et bah, sur Liège, pareil, il a explosé.
Ouais, bah ouais. Alors que, je l'avais mis dans mes pronos, vainqueur à Huy quand même. Hein. Voilà, il m'a bien laissé tomber, le petit Dylan. Hein. Mais
bien
effectivement.
Joué. Vos pronos.
Merci, ouais.
Comme bon, rappelons quand même que Alex avait mis Nibali à Liège. Hein.
Ah putain, ouais. je suis pas allé réécouter pour remettre les pronostics et afficher tout le monde là. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Parce que je suis sûr qu'il y avait des beaux trucs là, mais bon. Moi j'avais dit
j'avais mis Matthews à l'Amstel, je crois, en plus.
Ah ouais.
J'étais pas loin, putain, quand il a crevé sur le Koberg. Oh,
mais comme d'habitude, j'ai envie de dire qu'on est à chaque fois on est nul sur les pronostics. Hein. Faudrait qu'on arrête de les faire. Hein. Bon, évidemment.
Moi j'en ai eu un sur trois, hein. J'ai mis Alaf sur le mur. Hein.
Ah nice. Bon ben voilà. Bah c'est bien, tu remontes le niveau.
Je sais même plus qui j'avais mis sur le mur, moi.
T'as mis Valverde, je crois.
Je crois que j'avais mis... Non, non. Ah ouais, j'avais mis Valverde, c'est vrai, le deuxième.
Yann remet notre crédibilité au premier plan, merci.
Enfin bon, j'ai parlé de Benoît sur Liège, hein, les gars, donc on va pas non plus s'emballer.
Par contre, je suis désolé, mais si Bevin avait participé à une des ouais. trois Ardennaises, il aurait
gagné. Ah oui.
Oui.
C'est le moment où on coupe au montage, ça, non
ouais. Ah non, mais voilà, voilà. Que dire. Bon,
non,
du coup,
je crois
qu'on
a fait le tour. Ouais. Il y a la Sky aussi, sur... la Sky qui est décevante de A à Z.
Et ouais,
et Nao, il vient craquer son top 10, mais je trouve ça limite inquiétant en fait quand on voit l'effectif de la Sky.
Bah, la Sky, en fait, celui sur lequel, à mon avis, parce qu'ils ont effectivement un gros collectif, mais Pulse est hors course parce que Pulse sort d'une blessure sur. Pulse, excusez-moi.
Parce que la Pulse.
Ouais, running gag du podcast, hein, les mauvaises prononciations, encore une fois, je suis obligé de la faire en fait, hein, c'est dans le contrat. Du coup, Pulse, le Hollandais sort d'une blessure de la clavicule sur le Paris-Nice, donc lui, tu sais déjà que c'est une des grosses cartes de la Sky qui est hors course, mine de rien. Et Nao, on est moins impressionnant clairement cette année que sur les années précédentes. On voit qu'il est peut-être pas, il est pas au top. Sans doute que c'est un type qui va être prévu pour un des grands tours et qui va exploser tout le monde et qui sera un top équipier sur soit le Giro, soit la Volta, soit le Tour de France à suivre. Et mine de rien, en fait, j'ai l'impression que le vrai leader c'était Katowski, mais Katowski aussi pas en forme quoi. Katowski.
Et ça, c'est pas en forme, c'est à la rue. Enfin,
à la rue. Et c'est même depuis le début de saison parce que Katowski, en plus, ça, c'est vraiment inquiétant parce que Katowski était censé aussi emmener l'équipe sur certaines des Flandriennes et là aussi, il s'est raté. C'est vraiment que le mec est vraiment pas en forme depuis le début de l'année quoi.
Bah, il a remporté Tirreno et
à part sur le Tirreno,
Tourdalgarve et Tourdalgarve, mais après ouais, les courses d'un jour, il était, c'est même pas une existence, je sais même pas.
En fait, il était super fort. Il était super fort sur ses courses de préparation pour ses objectifs de l'année. C'est très bizarre.
Ouais, parce que Strade Bianche, invisible. Et puis après, les trois Ardennaises aussi, invisible complet. À part sur la flèche, d'ailleurs, il a fait un peu n'importe quoi. Il était en chasse-patate, il était à 20 secondes du peloton. Et il continue à rouler avec des marquis, j'ai pas compris pourquoi.
Bon, ben voilà, la Sky qui rate sa campagne, en fait, hein, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Quand ton bilan, c'est une 9e place avec Enao sur les Bastogne-Liège et je crois que c'est Moscone qui est sur l'E3, qui fait 7e ou un truc comme ça, de mémoire, là. Bref, quoi, deux vieux top 10, quand t'as une armada comme ça chez Sky, c'est du ratage complet, mais bon. En même temps, il y a la saison des grands tours qui arrive, et eux, on sait qu'avec certains coureurs, ils vont un petit peu carburer, à mon avis. Ou pas.
Ouais, ou pas du tout.
Ou pas du tout.
C'est pas gagné. Si... Hein.
Hein, le célèbre coureur non attribué. Bon, voilà. du coup, maintenant qu'on a fini avec l'Ardennaise, on est d'accord. Passons à l'autre cocorico du mois.
Juste un truc pour les Ardennaises, pour les équipes qu'on n'a pas vues aussi. Il y a Dimension Data et Katusha et l'Auto NL qui n'ont pas claqué de top 15.
Voilà. Bon, l'Auto NL, ils n'avaient personne. L'Auto NL, ils sont arrivés quand même en mode pas tourisme et ils viennent pour jouer des coups et ils n'avaient pas de vrai leader. Puisque Roglic n'était pas là en fait. Roglic, qui était impressionnant sur les gros pourcentages sur le Tour du Pays Basque, a fait aucune des Ardennaises alors que ça semblait être pourquoi pas un terrain favorable. Mais finalement, il a choisi de ne pas les faire. Et puis, bon, Katusha, ils avaient qui quoi. Pareil, tu me cites des équipes qui ont aucun gros leader quoi.
Ouais, alors, je tiens aussi à préciser une autre belle place. C'est, je crois, sur. C'est sur l'Amstel, c'est une des meilleures places pour les Conti, c'est la place de Preben van Eyck, 12e pour Sport Vlaanderen.
Il était dans l'échappée, il me semble, c'est pour ça aussi.
Ouais, mais c'est toujours mieux que Vital Concept, par exemple.
Oui, pas faux. Bien joué, du coup. Sur ce, passons au Tour des Alpes, anciennement Tour du Trentin. Et là, c'est le deuxième cocorico du mois, puisque Thibaut Pinot remporte la course, et pas devant n'importe qui, hein, excusez du peu. Il devance du coup, bon, Domenico Pozzovivo, bon, déjà c'est pas mal, Miguel André Lopez, Christopher Froome, Georges Bennett, Fabio Aru, enfin, il y avait quand même du client, beaucoup de coureurs qui se préparaient pour le Giro, parce que logiquement, voilà, le Tour des Alpes, c'est traditionnellement une des courses préparatoires pour le Giro d'Italia. Mais là, parmi tous les gens qui se préparent pour le Giro, bah, Pinot, il a passé un message, les gars. Bonjour, je suis en forme. Que dire, si c'était, il a été quand même très impressionnant, plus impressionnant que son équipe d'ailleurs. C'est surtout ça qui peut peut-être être la petite
on
inquiétude.
On parle de quelle équipe? Il y avait
voilà.
Personne.
Bah vas-y, je te laisse commencer. Pinot qui
non,
remporte.
Mais globalement, il s'est démerdé tout seul. Thibaut, il a fait une belle course. Hein, Pinot, il a fait à peu près ce qu'il fallait. Il s'est débrouillé, il s'est tiré la bourre avec les autres pour les victoires d'étape. Mais l'équipe était clairement pas au rendez-vous.
Predler était pas trop mal, c'était celui qui a un petit peu tenu la baraque.
Ouais, d'accord, mais c'est pas lui qui va le protéger en haute montagne sur les grands tours. Enfin, il va sauter en 2 minutes quand en face les équipes comme Astana ou Sky vont mettre en route. Il va se faire éclater.
Bah, du coup, t'en tires quoi de ce Tour des Alpes? Est-ce que t'es inquiet parce que l'équipe n'a pas l'air d'être au rendez-vous, ou est-ce que tu es en confiance parce que Pinot a l'air d'être absolument fantastique au niveau de sa forme?
Bah tu vois, on peut pas. C'est compliqué de dire. C'est sûr, ça a marché. Il suffit de regarder le Giro l'an dernier. Dumoulin, son équipe a été à la rue aussi la moitié du temps. Ça n'empêche pas d'éclater tout le monde. Donc si ça se trouve, Thibaut, il est dans la forme de sa vie et ça sent bon pour lui. Sauf qu'en face, on a quand même des équipes qui sont préparées et qui, normalement, dans la préparation, sont vraiment, vraiment fortes. Tu vois, la Sky, ils arrivent rarement les mains dans les poches avec trois équipiers qui passent au travers. Chaque jour, ils font une rotation, ils ont toujours du monde. Et là, ça risque d'être compliqué sur la longueur, ouais.
Oui, bah parce qu'après aussi, justement, on peut penser que s'il y a certains coureurs qui ne sont pas forcément au top sur ce tour des Alpes, on pense chez Sky par exemple, à Froome, qui a déjà montré des limites, qui était moins fort que Kenny Ellison, hein, les gars, rendez-vous compte. Et même les équipiers de Froome, un mec comme De La Cruz n'était pas tip top non plus. Bref, on peut justement penser qu'ils ne sont pas en forme parce que le Giro, tout va se jouer théoriquement dans la dernière semaine. Parce que
Oui, clairement.
avant ça, c'est que des courses de côte. Et ensuite, les vraies grosses étapes, le contre-la-montre, etc., tout se joue à partir de l'étape 15 ou 16. Donc c'est vraiment, on peut se dire qu'en fait, limite, est-ce que Thibaut ne serait pas en forme trop tôt? Hashtag alarmiste.
Perso, je pense pas. Je pense qu'il est au même niveau, vrai, que Pozzovivo et Lopez.
Ouais.
Froome est un peu en retrait, Aru encore plus en retrait, mais bon, il est à peu près au même niveau que les autres, quoi. Peut-être un peu plus fort. Mais non, il m'a pas impressionné plus que ça.
Puis il gagne un classement général pour 15 secondes, hein. Il gagne pas.
Ouais, c'est
Tu vois,
pas
il
une
l'aurait gagné avec
démonstration.
5 minutes d'avance en faisant des démonstrations sur toutes les étapes. On pourrait se dire c'est une super victoire, mais est-ce que là, oui, c'est pas logique d'avoir un peu peur en se disant il est trop en forme et les autres sont en train de se préparer comme il faut. Non, là, je pense que, comme le dit Owen, il est dans les clous. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est plus son équipe où je trouve qu'il y a une
Après,
grande faiblesse.
même son équipe, honnêtement, à part la Astana et Kenny Ellison, les autres aussi, c'était néant. Après, Reichenbach, je sais pas s'il sort de blessure ou quoi, mais enfin, je pense qu'il sera meilleur sur le Giro, il sera plus en forme. Ça fera déjà un bon équipier avec lui. Mais ouais, à part la Astana, les autres forces collectives, il n'y en a pas, quoi.
Si tu compares à la Sky aussi a été loin d'être très impressionnante, mais comme on le disait juste avant, on sait que la Sky prépare parfaitement ses pics de forme, et ça m'étonnerait pas qu'un mec comme De La Cruz, qui était clairement pas à son niveau sur ce Tour des Alpes, soit monstrueux sur la dernière semaine du Giro, tout comme le sera Poels, parce que Poels aussi est prévu sur le Giro, il me semble, en tant qu'équipier. Je dis peut-être
Ouais,
une
pour
connerie,
l'instant, il est
mais...
indiqué. Ouais.
Si
Mais
d'ailleurs,
voilà.
il y aura la super team pour
Ouais, voilà.
Froome.
Mais à mon avis, Reichenbach est un petit peu dans le même objectif, c'est-à-dire que lui aussi, Reichenbach, il va pas servir à grand-chose avant la troisième semaine. Donc le fait qu'il soit en retard sur sa préparation, pour moi c'est pas un retard, c'est juste qu'il n'est pas encore en forme parce que Thibaut en aura besoin sur la dernière semaine du Giro, et justement je pense qu'ils ont essayé de caler son pic de forme sur cette période-là. Hein. C'est pour ça que pour l'instant il est toujours un petit peu à court. En tout cas, j'espère que c'est pour ça, que c'est pour la même explication que pour les Sky, à mon avis. Ben, je croise les doigts en tout cas.
Aussi, un autre leader qui avait personne, Aru. Et quand je regarde son équipe, enfin, généralement, c'est à peu près les mêmes qui sont au Giro. Et là, par contre, lui, il a vraiment personne. Alors lui, c'est, je ne sais pas comment il va faire, mais il passe de Astana où il avait vraiment une force collective impressionnante, et là il va passer à être tout seul.
Bah, il a fait un
Bah
bon
ouais.
choix de carrière.
Réponse dans 5 semaines, on verra bien. Ok, des choses à
Et
rajouter. Alors si.
si vous en voulez voir plus, allez écouter le podcast de présentation du Giro.
Oui, exactement, parce que là, effectivement, on est limite en train d'empiéter sur
Ouais.
le prochain podcast qui va arriver, à savoir la présentation du Giro. Et là, on va se régaler. Je vais préparer mes fiches, on va faire coureur par coureur. Ça va être, encore une fois, un bon
D'ailleurs,
truc.
Harun fait pas le Romandie, ce qui
Ouais.
est bizarre parce que normalement c'est une préparation au Giro,
Mais
c'est
pas tout le
important.
temps, hein. Souvent, c'est soit tu fais Romandie, soit tu fais 31. C'est l'enchaînement des deux qui est un peu plus rare, en fait. Toujours
Juste
est-il
pour
que.
revenir vite fait sur le Tour des Alpes, il y a
Vas-y.
quand même deux coureurs qui sont bien montrés, qui sont Ben O'Connor,
Ah ben, j'allais en
qu'on
parler.
n'attendait pas à ce niveau-là. Et puis il y a Marc Padoue qui, pareil, il claque son étape. Il finit derrière O'Connor au classement des jeunes. C'est assez rigolo parce que c'est deux équipes qu'on a peu vues sur les Ardennaises. Et c'est pas forcément deux coureurs qu'on attendait là, parfaits sur le Tour des Alpes et qui, à l'arrivée, remettent un peu de projecteur sur leur équipe et sur leur père.
Bah, moi, je
Il
rajouterais même.
y a Giulio
Oui, voilà.
Chichen aussi,
Chichone qui, enfin.
qui derrière remporte le Giro dell'Appennino
C'est ça.
aujourd'hui.
Et même, vous l'avez oublié parce qu'il a fait que 2 jours, parmi les meilleurs, mais le petit Sosa aussi, hein, le petit Colombien, là, dans chez Androni, là.
Ouais,
Et
ça
jumelé avec
fait
les
encore un
meilleurs.
peu avant de s'emballer.
Il a
Il a
chuté dans la
chuté,
descente
ouais.
du dernier col qui arrive à Merano, le Passo Bidule.
Voilà, et il termine à 4 minutes et donc toutes ses ambitions générales. Mais de toute façon, après, on voit qu'il est touché parce qu'après, il joue même plus du dérailleur avec les meilleurs, alors que c'était clairement un des plus forts sur les 2 premières étapes, quoi. Mais bon, voilà. Moi, il y a effectivement le quatuor Sosa, O'Connor, Padoun et Chichone. C'est les 4 mecs qui sont plus ou moins des révélations. Chichone avait déjà montré qu'il était très fort, mais bon, il manquait un peu de régularité. Chichone, il était bon sur des coups. Là, il est là finalement au classement général final, donc il a été réglé sur toute la semaine. Mais ouais, effectivement, il y a une bonne petite brochette de jeunes coureurs qui sont bien montrés sur ce Tour des Alpes.
Kenny Elissonde aussi, très impressionnant en
Ah
tant
ben
que
oui,
coéquipier
on a parlé
Basket,
quand on a dit Froome là.
qui a fait un boulot extraordinaire pour Froome, mais qui manque de le lâcher d'ailleurs dans la dernière étape à Innsbruck. Donc là, je sais pas ce qui leur donne la Sky, mais ça a l'air de marcher.
Je pense que
Oh, ce
surtout
vieux
il est.
sous-entendu.
Oh, j'avoue, c'était dégueulasse cette phrase. Hein. Oh, putain, super.
Là
Non, mais c'est
là,
surtout
complètement illégal.
qu'Elissonde était l'équipier numéro 1 de Froome sur ce Tour des Alpes. Et je pense qu'il avait prévu sa préparation pour ça. Et à mon avis, il va retomber dans la hiérarchie à son vrai rôle, c'est-à-dire faire les débuts de col quand on sera sur le Giro. Parce que je crois qu'il est prévu sur le Giro. Je pense que justement, c'est pour ça que je disais que des mecs comme Poels et comme De La Cruz sont pas encore en forme parce que c'est pas encore leur moment de briller. Hein. C'est tout. Hein.
Après, Pouls, faut voir. Il vient de blessure le garçon, donc
Oui,
faut
aussi,
voir.
aussi. C'était pas prévu qu'il soit en retard sur sa préparation. Peut-être. Parce qu'il devait viser les Ardennaises au départ, quoi. Mais bon. Avant de conclure, moi j'avais un mini-jeu à vous faire. Parce que, quand même, au cours du mois, on a eu des magnifiques tactiques d'équipe. J'ai envie que vous votiez. Quelle était la pire tactique du mois? Moi, j'ai fait une petite liste. Alors, on commence avec les Ardennaises, avec le fait que tout le monde se regarde et laisse partir Valgren sur l'Amstel. Ensuite, je vais vous proposer donc Astana sur l'étape 3 du Tour des Alpes. Avec. Dans le final, Miguel André Lopez qui roule pour rattraper O'Connor, qui n'arrivera pas à le rattraper, et qui roule pour Luis León Sánchez, qui lâche à la fin, qui perd du temps sur le haut général, et en même temps, Luis León Sánchez rate son sprint, fait le
Et
total
en
sur l'étape
plus,
3.
il me semble que Lopez avait attaqué, ses
Oui,
équipiers lui
aussi.
avaient roulé dessus.
C'est ça, ouais,
Ouais,
en
ils se sont
plus,
roulés dessus, ouais.
Astana qui menait en tête du peloton, et Lopez qui décide d'attaquer ses équipiers. Bon, voilà, c'était. Un récital, j'ai envie de dire, d'Astana sur cette étape 3. Et ensuite, en troisième choix, une course qu'on n'a pas encore évoquée, c'est sur le Tour de Croatie, c'est la tactique de Trek, avec Niklas Hegg qui roule pendant 15 bornes sur un col de 30 bornes pour son leader Brambilla qui explose en plein vol après 100 mètres d'attaque, et Hegg qui termine avec 1 minute 30 d'avant, je crois, sur lui au final sur l'étape. Donc voilà, quelle a été selon vous
Il
la.
y a une quatrième quand même que j'avais mentionné au début, c'est la stratégie
Ah
Euskal
oui.
Area sur le Tour de Castilla-León, où sur l'étape 2, ils font le sprint à deux parce qu'ils pensent qu'ils vont faire 1 et 2, et au final ils se font niquer par Mikael Rahim qui fait un gros retour et qui gagne l'étape.
Voilà, donc si vous voulez, un dernier petit contestant dans ce magnifique concours. Donc voilà, choisissez. Hey, je fais un tour de table pour savoir laquelle vous a fait le plus rire. Alex, je te laisse commencer.
Je pense que la Astana autour des Alpes est quand même magique.
Ouais,
C'est quand même
putain.
un bon gros fail des familles où là, c'était juste n'importe quoi. Tu regardes
Lopez
la
qui
télé,
attaque
tu te
ses
dis, mais
équipiers, quand
qu'est-ce
même,
qu'ils sont en
c'est.
train de faire?
Yann.
Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, Astana, c'est au-dessus. Parce que c'est pas le même enjeu, tu vois. Encore, Tour de Croatie, ou... Ok, ça reste des courses. Hein. Je veux pas être injurieux ou quoi que ce soit. Mais là, c'est quand même une grosse course avec des gros, gros coureurs. Et les mecs, ils arrivent à mettre le cerveau en veille complètement.
Ouais.
Ou alors, c'est
Ouais,
qu'il y a un
tu...
directeur sportif derrière qui leur dit de faire ça et c'est encore plus grave. C'est qu'il y a un mec qui réfléchit et qui leur donne cette idée à la con.
Vas-y Miguel, attaque tes équipiers là. Tu le vois dans la voiture ça. Awen, ton avis sur ce magnifique et
Bah,
ce concours de les Charlots quoi.
je vais rejoindre les deux autres Astana. Hein. Je pense qu'ils sont faits très très forts.
Ah ben vainqueur sans concurrence, ça j'ai l'impression.
Mais d'ailleurs, c'est là où c'est fou, c'est qu'Astana, ils sont capables de sortir des superbes stratégies. Par exemple,
Faire de
bah,
la merde
sur
sur les
l'Amstel Gold
pneus
Race,
après.
c'est pareil, c'est du tableau. Enfin, Valgren, Fuxang, chacun leur tour, ils se posent derrière, ça attaque quand c'est mort, nickel. Et là, ils sortent des trucs de l'espace.
Ah non mais là. Mais après même, c'est-à-dire que ce qui est encore plus impressionnant, c'est même sans évoquer l'Amstel, c'est au sein même du Tour des Alpes, il y a des tactiques parfaites sur les jours d'à côté, et au milieu, t'as cette anomalie avec ces troisième étapes où ils font tout à l'envers. Bah bon voilà. Mais bon. Bon après sinon tu disais qu'il fallait pas gueuler, tu pouvais pas trop critiquer les courses. Tu peux critiquer, je pense, le Tour de Croatie, qui a une des startlists les plus dégueulasses qu'on a vues de l'histoire des tours hors catégorie, enfin classés hors catégorie, parce que c'est quand même Siu Tsu qui gagne devant Peter
Ouais.
Wenning.
Ouais, mais c'est plus par respect pour les coureurs. Les mecs, ils se dépouillent quand même tous les jours
Ouais. Et
sur des
putain.
centaines de bornes. Ils ont des efforts de malade. Je vais pas les critiquer alors que je fais pas un quart ce qu'ils font.
Oui, mais on peut quand même, je pense, d'ailleurs, tous rendre hommage à l'étape avec le col de 30 km qui était absolument. Enfin, c'était interminable. Là, c'était abusé cette étape. Du coup, est-ce que ça serait pas la fin? Est-ce que ça serait pas le moment où on n'a plus rien à dire et on évoque des choses qui n'ont plus aucun sens et plus aucun lien entre elles? Je pense qu'on arrive à ce stade-là, les gars.
On peut parler du tour à Vegila, mais voilà quoi, l'intérêt est très
Et je
limité.
sais même pas qui a gagné
On
ce
va dire que
truc.
c'est la fin.
C'est qui a gagné d'ailleurs? Je sais même pas. Mais
C'est pas encore fini.
ah, voilà.
La dernière étape, elle est aujourd'hui, donc.
Ah, t'es sur les starting blocks là.
Là, j'ai l'affiche PCS juste devant moi. Le leader du classement général, c'est Rob Britton de chez Rally Cycling.
Ah bah l'année dernière elle a gagné quoi? Le Tour de l'Utah, je crois.
Le tour d'Alberta, non, un truc comme ça. Enfin,
Ouais.
il gagne une course aux États-Unis, au Canada par an.
C'est ça.
Voilà.
Sinon, on aurait pu parler aussi du Tour d'Antalya. Hein. Attention, hein. Si on va vraiment très très loin dans les...
Ouais, le
Et...
Tour of Mercy, le Tour du Jura.
Tour du Maroc, magnifique razzia de Marisco. Hein.
Et victoire de David Rivière,
Je
de la
sais même pas...
France.
C'est le frère de l'attaquant de Saint-Étienne ou... Non?
Oh putain,
Attention.
les
Oh là
références de
là!
dur à des
Incroyable!
vraiment arrêter les
Club.
gars. Allez,
Incroyable! Sous-club de Ligue 1, là, oh là là.
Il joue même plus à Saint-Étienne, mais dans l'État Monaco, je sais même plus où est-ce qu'il est maintenant, Rivière. Bref. Toujours est-il, c'est le temps de conclure. C'est le temps du mot de la fin. Et alors là, tout le monde retient son souffle, parce que Alex est présent. Alors,
Là,
est-ce que...
j'ai encore pas préparé, ça va être
Ah, d'accord. Eh ben,
n'importe
tu sais...
quoi, ça.
Est-ce que t'arrêtes si... Ouais. Logiquement, désormais, quand tu viens sur le podcast, il faut que tu saches que tu prépares une conclusion du feu de Dieu. C'est moi,
Ah
maintenant,
ouais,
c'est attendu. Hein. Bon, du coup, si t'as rien préparé, on va laisser parler les autres en premier, et puis on verra. Si t'as vraiment rien, c'est pas très grave pour cette fois, on t'excusera, mais bon. Du coup, le mot de la fin, Awen, je commence par toi.
bah rendez-vous Giro.
Exactement. Et là, ça serait parfaitement le bon moment pour que je dise la date du début de Giro, mais je la connais pas. Donc voilà.
Le 4 mai.
4 mai, ben voilà. Rendez-vous à Tel Aviv. Ou Jérusalem? Je sais pas. Non, Jérusalem.
Jérusalem. Oui, Jérusalem.
Ok. Yann, ton dernier mot?
Une bonne semaine, on va dire, pour les coureurs français, en espérant que ça continue.
Dans 5 semaines, Pinot aura gagné son premier grand tour. On y
On
croit.
verra.
Alex, ton ultime bafouille?
J'ai trouvé le truc parfait, mais j'arrive pas à trouver d'analogie tout de suite là.
Ah,
Au
hey,
pire,
tu sais,
j'essaie de trouver un truc sur Liège-Bastogne-Liège, mais j'y arrive pas.
tu sais que les fois précédentes, l'analogie n'était pas tout à fait parfaite non plus, et pourtant on a quand même bien rigolé. Hein. Tu peux y aller sans, je pense.
Surtout rien compris la dernière fois.
Ouais, mais la dernière fois, j'y ai pensé, tu vois. Là, j'y ai pas vraiment pensé. Si je dis, ça va être vraiment n'importe quoi. Alors, est-ce que
Ouais,
j'y
vas-y.
vais ou
Hey,
pas?
t'es libre. Choisis ce que tu fais, mais choisis maintenant.
Allez, on y va. Alors, le mardi 26 décembre 2000, le Samina, un navire qui fait la liaison Athènes-Antiparos, pendant la nuit d'ailleurs, coule en tapant un rocher qui était à l'entrée du port et qui était pourtant sur toutes les cartes, parce que son équipage était en train de regarder un match de foot à la télé. D'ailleurs, le capitaine sera mis en prison pendant 20 ans. Et cela fait une analogie à Liège-Bastogne-Liège, parce que quand on regarde autre chose, on oublie tout ce qu'il y a devant. Voilà.
Voilà, on oublie que Bob Jungle s'en va, et bim, ça fait une victoire pour, de plus pour Quickstep. Pas mal, pas mal. Et c'est aussi un souvenir que bientôt c'est la Coupe du Monde de foot. Wouh! Bon voilà, c'est rien à voir avec le vélo, mais...
Vivement la victoire de l'Australie en ouverture face à la France.
Ok, allez, on va s'arrêter là. Hein. Quand on commence à parler foot dans ce podcast, c'est vraiment qu'on est sur la fin. Du coup...
Genre jubile moi, d'avance.
Mon mot de la fin, du coup, moi c'est comme d'habitude, le prochain rendez-vous. Ben, comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans le podcast, ça sera pour la présentation du Giro. Logiquement, on reviendra en long, en large et en travers également sur le Tour de Romandie au passage et également sur le Tour des Alpes. Il y aura une seconde couche, je pense. Mais voilà, il y aura donc une présentation en détail des favoris pour le général, pour le sprint, etc. Bon, vous avez l'habitude, hein, tous les ans on fait ça. Donc préparez-vous à un podcast en mode revue d'effectifs. Moi, j'adore faire ça. Donc rendez-vous dans, je sais pas, une dizaine de jours à peu près. Allez, ciao.
Eh ben, salut.
Au revoir.
Au revoir.